Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Une première dans l'histoire de mobilisation des recettes en RDC. Le pays a réalisé une performance de 14% d'excédent budgétaire, soit une mobilisation de plus de 8 milliards de dollars au lieu de 7 milliards prévus. Ceci ressort de l'examen à l'Assemblée nationale du collectif budgétaire 2021. Traque des groupes armés actifs dans le Tanganyika. Plusieurs localités jadis bastions des groupes armés sont passées sous contrôle de l'armée depuis le début de la troisième phase de ces opérations. Le commandement des opérations Usalama s'est dit satisfait. Et puis, au moins 700 000 déplacés en situation difficile et certaines femmes déplacées victimes d'exploitation sexuelle. Cela se passe dans le territoire de Beni, constat de la chef de la sous-délégation du ACR au Nord et Sud Kivu, Jackie Kigen, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. La RDC a réalisé une performance de 14% d'excédent budgétaire, soit une mobilisation des recettes de plus de 8 milliards de dollars au lieu de 7 milliards prévus dans le budget 2021. C'est ce qui ressort de l'examen à l'Assemblée nationale du collectif budgétaire 2021. Répondant aux préoccupations des députés, le ministre du Budget, Aimé Bogi, s'est félicité de cet exploit qui, selon lui, est le premier dans l'histoire de mobilisation des recettes en RDC. Pour sa part, le ministre des Finances a éclairé la représentation nationale des raisons des différents dépassements budgétaires déplorés dans l'exécution du budget 2020. Explication Michel Kifindangoy.
Abordant les préoccupations exprimées par les députés sur la rendition des comptes, le ministre des Finances a fourni des explications sur les divergences, les dépassements ou les faiblesses d'exécution du budget 2020. Nicolas Kazadi.
Ce qui explique ces dépassements ou ces faiblesses d'exécution, c'est d'abord la qualité de la prévision budgétaire. La tendance est toujours d'exprimer des ambitions qui vont au-delà des moyens, mais souvent ça se retourne contre nous. Certains services ont l'avantage de consommer plus que d'autres et ça crée des frustrations.
Concernant le collectif budgétaire 2021, le ministre du Budget se félicite de la performance dans la réalisation des recettes affectées à l'amélioration des conditions sociales des travailleurs. Aimé Bogi.
Les recettes sont en augmentation. C'est pour cela que le projet de loi des finances rectificatives améliore les prévisions budgétaires à hauteur de presque 14%. C'est la toute première fois que la loi des finances rectificatives est revue à la hausse. Les dépenses dans les secteurs sociaux ont été améliorées, notamment santé et éducation, mais aussi et surtout dans les domaines sécuritaires, l'amélioration des dépenses en investissement qui passe de 11% à 16%.
Le ministre Aimé Bogi promet de poursuivre les réformes dans les secteurs des finances publiques afin de maximiser les recettes au cours de l'exercice 2022.
Radio Kapi entame ce lundi 15 novembre la diffusion d'une série de reportages sur la redynamisation de la coopération entre la RDC et les pays voisins de l'Est du pays. Vous le savez déjà, Kinshasa a signé récemment plusieurs accords bilatéraux avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Kenya. Ces accords sont certes une preuve d'un certain regain d'intérêt pour la RDC, en raison notamment de son grand marché de près de 100 millions de consommateurs. Si la mise en œuvre de certains accords tarde encore, celui appelé régime commercial simplifié du commissaire Ecos semble lui sortir du lot. Soutenu par la Banque mondiale, il régit le petit commerce transfrontalier entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. Jungala s'est penché sur ce projet qui fait vivre quotidiennement 7000 petits commerçants entre Goma et Gisenyi au Rwanda et 17000 si l'on considère tous les points d'entrée et de sortie entre les trois pays. Reportage.
Maman Georgette Bisonga, veuve de son état, vend de la tomate achetée au Rwanda. Le produit de cette vente profitera bien sûr à tous les membres de sa coopérative du bas peuple, mais surtout à elle-même, comme c'est le cas depuis longtemps maintenant.
On survit avec ça à la maison, on paye les études des enfants, il y a aussi nos capitales qu'on met dans la coopérative, fin de l'année ou 6 mois après, on dispatche.
L'achat et la vente groupées en coopérative, côté rwandais comme côté congolais, sont encadrés par le programme commercial simplifié du COMESA, RECOS. Celui-ci vise à booster le petit commerce transfrontalier par l'allègement des droits de douane et taxes à ceux qui ont moins de 2 000 $ de capital. Pepe Mikwa, chargé des communications au projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs, CFCGL, estime que ce projet soutenu par la Banque mondiale est le plus à même de lutter contre la pauvreté de part et d'autre de nos frontières. Goma, Jules Ngalawamona, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, dans la province du Tanganyika, le commandement de la 22e brigade de réaction rapide, commandement des opérations Usalama, se dit satisfait du déroulement des opérations de traque des groupes armés actifs dans la région. Depuis le début de la troisième phase, plusieurs localités jadis bastions des groupes armés sont passées sous contrôle des FARDC. Le commandant de la 22e brigade, Dieudonné Mouima, appelle la population du Tanganyika à la collaboration avec l'armée pour mettre hors d'état de nuire toutes ces forces négatives et appelle à la reddition les groupes armés afin d'adhérer au processus DDRC. Écoutez à ce sujet le porte-parole de l'armée dans le Tanganyika, le capitaine Carlos Kaloumé, au micro de François-Xavier Mibé.
Plusieurs localités jadis occupées par ces malfrats, parmi lesquelles Manyenze, Mugongo, Mubende, Maselai, Mubandala 2, Maya, Mwibe, Luamba, Majembela, Kaendwa. Ces villages sont pour le moment sous le contrôle de FARDC. Selon la loi, pour le moment, écume une partie de la province dans les confins en limite avec la province du Maniema, dans le sous-secteur nord Lukuga, parmi lesquels le groupe armé Apanapale de Mundus, 5 sur 5 de Pygmées, qui sont très réputés dans les braquages, pillages, tueries, viols et prises d'otages. Selon la loi, serait maintenant à la direction de Maniema, en débandade, et ils mettent certaines bévues au niveau du Tanganyika ici, en se cachant. Contrairement, encore une fois, aux messages qui sillonnent dans les réseaux sociaux, attestant que la localité de Lambokatenga est sous contrôle de ces miliciens, ces Maïmaï, nous disons non à cela. Cette localité est bel et bien contrôlée par les FARDC.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, deux enfants pygmées d'une même famille ont été tués et deux femmes blessées par un soldat FARDC à Mubambiro, groupement de Kamuranza dans le territoire de Masisi. C'était au cours d'une dispute engagée entre ce militaire incontrôlé et une professionnelle de sexe. Ce meurtre a provoqué une forte tension samedi dans la matinée à Mubambiro, où les pygmées ont barricadé la route Goma-Sake pour exprimer leur colère. La justice militaire de Goma a tenu une audience foraine le même jour à Mubambiro, audience au cours de laquelle le militaire accusé de ce meurtre a été condamné à perpétuité. Le récit de Bernardine Diambo.
Le caporal Kapukisa Kayeye, condamné directement à perpétuité par la justice militaire de Goma, c'était au cours d'une audience foraine à Mubambiro sur ordre du commandant de la 34e région militaire qui s'est rendu sur place pour calmer la colère des pygmées après les forfaits commis par ces soldats incontrôlés selon notre source. Les deux autres femmes qui ont été blessées par balles ont été acheminées dans une structure sanitaire de la place pour des soins appropriés, a ajouté notre source. La communauté pygmée de Mubambiro se réjouit toutefois de ces verdicts qui, selon elle, pourraient changer le comportement des militaires incontrôlés qui sont dans les camps de transit de Mubambiro. Le père de ses deux enfants, âgés de 7 et 8 ans, quant à lui, a remercié le commandant de 34e région militaire pour son implication afin que l'auteur de ces meurtres réponde de ses actes, car selon lui, ses enfants ont été victimes d'une dispute entre le caporal Kayeye et sa concubine, alors que le caporal Kayeye va vider son chargeur en tirant en l'air afin de dissuader et faire venir sa concubine qui a pris fuite. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, les cas de viols sur mineurs se sont multipliés ces derniers jours dans le territoire de Mambasa. Selon la plateforme des ONG de protection des enfants dans ce territoire, 3 filles ont été victimes de viols la semaine qui s'est achevée à Mambasa. Cette organisation attribue cette situation à l'insécurité causée par les rebelles ADF, avec comme conséquence le déplacement des populations. Isaac Remoyope nous raconte.
Selon les résultats des enquêtes menées par la coalition des organisations de protection des enfants de ces territoires dénommés CVAP, 3 cas de viol sur mineurs ont été enregistrés cette semaine. Il s'agit notamment d'une fille de 9 ans qui a été violée par un inconnu au village de Luemba, à plus de 50 km de Mambasa centre. Le présumé auteur a fui après les forfaits. Une autre fille de 13 ans a été abusée sexuellement par son enseignant dans la localité de Mayuano. Cette ONG indique que plusieurs autres cas de violence ne sont pas répertoriés à cause des mouvements mouvement permanent des populations qui fuient les exactions des groupes armés dont les rebelles des ADF et des miliciens Maïmaï. Selon son coordonnateur, l'insécurité expose de nombreux enfants, surtout des filles dans la région. Cette organisation dénonce l'impunité des auteurs qui ne sont pas inquiétés. Elle demande à la justice de se saisir de ces cas de viol et au gouvernement de restaurer la paix en Ituri pour mettre fin aux différentes violations des droits des enfants. Bounia Isakre Moyope, Radio Okapi.
Et puis, on ne doit pas céder aux manœuvres de l'ennemi qui cherche à s'aimer des méfiances entre l'état de siège et la population. Propos du responsable de l'Organisation des droits de l'homme, CEPADO, à Beni. Ceci après la récente attaque des ADF dans la chefferie de Bachou, où des dégâts humains et matériels sont considérables. Maître Omar Kavota, directeur exécutif du CEPADO, s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Nous voudrions féliciter le FRDC pour leur prompte intervention qui a permis de neutraliser au moins 8 éléments de l'ADF et permettre à ce que les dégâts soient limités. Et à l'occasion, nous voudrions encourager nos acteurs politiques à éviter des actions populistes lorsqu'on est en face du terrorisme, lorsqu'on est en face de ces actes barbares. Nous devons comprendre l'ampleur du terrorisme. Et il revient à ces acteurs politiques et à toute la population d'accompagner l'état de siège, de soutenir l'état de siège pour que cet état de siège mette fin à cette barbarie des terroristes. Nous devrions, comme jamais auparavant, comprendre que les terroristes doivent chercher par tous les moyens à semer la méfiance entre ceux qui les combattent et la population, c'est-à-dire entre la population et l'armée, entre la population et les animateurs de l'état de siège, entre la population et les institutions. Et s'il vous plaît, ne cédez pas à cette manœuvre de l'ennemi.
Direction la province de la Tchopo, les cours reprennent aujourd'hui dans toutes les écoles publiques, aussi bien officielles que conventionnées. Ainsi en ont décidé les enseignants réunis au sein du CIECO, CINECAT et CINEP. Décision prise au cours de leur rencontre vendredi dernier à leur siège officiel à Kisangani. Selon Joseph Litete, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la Tchopo, les avancées constatées dans les négociations en cours au Congo central ont motivé les enseignants à se prononcer en faveur de la reprise des cours. Joseph Litete, joint par Jacques Moukonkolé.
La base s'est réunie vendredi 12 novembre et a décidé de suspendre la grève en attendant la levée de cette dernière après la conclusion des travaux de Mbouela.
Qu'est-ce qui a motivé les enseignants à suspendre la grève?
Oui, ils ont décidé de répondre parce que au rapport que les délégués que nous recevons de Mbouela, ils savent que les travaux évoluent normalement et qu'il y a un parfait climat de travail. De ce fait, nous pourrions leur faire confiance en attendant les conclusions finales. Ainsi, on a décidé l'Assemblée de pouvoir momentanément suspendre la grève pour que le cours reprenne lundi 15 novembre.
Donc, les parents peuvent envoyer leurs enfants à l'école?
Exactement. À la suite de ça, nous invitons tous les enseignants à reprendre le chemin de l'école de ce lundi et aussi aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école parce que cette fois-là, la grève est suspendue surtout de l'étendue de la Tchopo.
Rappelons qu'il y a plus d'une semaine, le gouverneur intérimaire de la Tchopo, Maurice Abibusa Kapela, avait demandé aux responsables des syndicats de se réunir afin de suspendre la grève à titre conservatoire en attendant la fin des négociations. Santé, lutte contre la propagation du coronavirus. L'archevêque métropolitain de Lubumbashi lance un appel pressant à toute la population à se faire vacciner. Monseigneur Fulgence Muteba l'a fait après avoir reçu son vaccin ce week-end à Lubumbashi. On l'écoute au téléphone de Jean Gandou.
Moi, j'ai reçu mon vaccin et pour la simple raison que, pour le moment, comme il n'y a pas de médicaments contre la pandémie de coronavirus, eh bien, il faut se contenter du vaccin. En matière de santé, je suis ce que l'OMS dit, ce que le ministère de la Santé dit. Je pense que c'est tout simplement une question de sagesse élémentaire. Par ailleurs, je crois que pour le moment, c'est la solution la plus convenable. J'invite la population à suivre la voie de la sagesse, c'est-à-dire à accepter ce vaccin et à respecter les mesures barrières en attendant que les scientifiques puissent trouver une solution durable, c'est-à-dire un médicament contre cette pandémie. Je crois qu'il est tout à fait impérieux pour le moment de se faire vacciner. J'adresse un appel pressant à notre population à ne pas mourir d'ignorance, comme Ézéchiel l'a dit, et à se laisser guider par les observations et les conseils judicieux de l'OMS ainsi que de notre ministère de la Santé.
L'actualité internationale.
Nous sommes en Libye. Le fils de l'ancien dictateur Muammar Kadhafi a officiellement déposé sa candidature hier pour l'élection présidentielle libyenne prévue le 24 décembre prochain. Cette candidature du deuxième fils de Muammar Kadhafi n'est pas une surprise, tant Saif al-Islam avait déjà fait part de ses intentions. Le glaive de l'islam, c'est ce que signifie son prénom, est officiellement de retour sur la scène politique libyenne. Le secrétaire d'État américain entame une tournée de 5 jours en Afrique subsaharienne. C'est la première depuis l'élection de Joe Biden à la Maison Blanche. Anthony Blinken se rend au Kenya, au Nigeria et au Sénégal. Au cœur de son déplacement, la situation au Soudan et en Éthiopie.
L'invité.
Au moins 700 000 déplacés vivent dans des conditions difficiles et certaines femmes déplacées sont victimes de l'exploitation sexuelle dans le territoire de Beni au Nord Kivu, constat de la chef de la sous-délégation du HCR au Nord et Sud Kivu. Jackie Kigen vient d'effectuer une mission dans la région. Invitée de ce journal, elle parle des besoins des déplacés. Elle s'entretient avec Martial Papimukeba.
Jackie Kigen, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation des déplacés dans la région de Beni?
Nous trouvons que la situation des déplacés dans la région de Beni continue de s'empirer. Les déplacés qui avaient l'habitude dans le passé de passer des mouvements pendulaires, de venir pendant certains mois ou semaines, mais à retenir accès à leurs champs et aux villages, sont maintenant de plus en plus obligés de rester où ils ont dû fuir. Et ils sont obligés, en fonction de ça, de rester plus longtemps chez les familles d'accueil, les communautés d'accueil, dans les ressources sont épuisées malgré la générosité des Congolais. À Mangina, à Beni, à Wicha et ailleurs, les populations d'hôtes commencent à ne plus avoir besoin de soutenir leur rôle de premier répondeur. Et avec le résultat que les personnes déplacées sont de plus en plus forcées de prendre ressort aux stratégies de survie dangereuses comme la vente de sexe.
Vous avez les chiffres de ces déplacés?
L'estimation des chiffres dans le territoire de Beni est à 700 000, mais on a malheureusement des gens qui sont forcés de se déplacer tous les jours. On compte sur les autorités locales et les organisations locales largement pour fournir ces chiffres et les garder à jour.
Quels besoins ils expriment?
Le premier besoin, c'est la sécurité et la capacité de rentrer chez eux sans avoir peur de se trouver dans des fermes qui sont entourées ou contrôlées par les groupes armés ou les hommes en armes. Ils ne peuvent pas accéder à leur champ. La deuxième demande, ils parlent de l'eau, ils parlent de la proximité, ils parlent du fait qu'avec le plus de personnes qui viennent, ils ont moins d'opportunités de libérer les écoles, par exemple, ou que les enfants puissent aller à l'école. Et donc, ça pèse sur les familles qui vivent à 5 familles dans une salle de classe. Le fait qu'ils sont là fait que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et je n'ai pas besoin de vous dire à quel niveau l'école est importante pour le bien-être des enfants, dans le court et dans le long terme.
Que répondez-vous à ces qui disent qu'il n'y a pas un engagement fort des organisations internationales pour assister les déplacés dans la région de Beni?
Je peux absolument dire que ceux qui sont là parce qu'ils ont insisté sur leur présence ici. Nous sommes engagés à fond avec la population et si, je peux parler pour l'HCR, je peux parler pour ABSI qui travaille avec nous, SOFDEF qui est une organisation locale qui pousse tout le temps pour avoir les ressources. NRC est en train de construire énormément de maisons, ce qui va, on espère, libérer les écoles pour les enfants. Les organisations qui sont ici et qui ont trouvé des financements, le CICR, on a tous dû trouver cet argent dans des mini-poches. Il n'y a pas une grande allocation humanitaire pour la zone de Beni, malgré la situation. Et donc, si on est là, c'est parce qu'on est engagé, on est déterminé de faire quelque chose.
Êtes-vous au courant des cas d'exploitation sexuelle auxquels font face certains déplacés, femmes et filles, dans la région des Kassindi?
Oui, ici et malheureusement partout où il y a le déplacement, c'est quelque chose qui arrive. Et oui, on est au courant des femmes qui de plus en plus nous disent que la situation s'empire.
Et que fait les HCR pour mettre fin à cette situation?
Nous travaillons avec des groupes, les groupes locaux de protection, c'est-à-dire les résidents dans des zones d'accueil et dans des zones d'origine, et aussi avec quelques organisations locales de protection qui travaillent avec des communautés et qui effectivement cherchent à identifier les femmes ou les filles qui sont engagées ou qui s'engagent dans des stratégies de survie dangereuses, dont la violence sexuelle malheureusement fait partie. Et ils travaillent comme ils peuvent avec avec ces femmes en cherchant des solutions autres que cette industrie. Nous faisons des plaidoyers directs auprès des autorités, auprès des forces de l'ordre, auprès de la MONUSCO. Et parfois, on a eu des succès. Hein. On a pu trouver sur les acteurs du service sécuritaire, national et international, qui ont la capacité d'agir. Dans d'autres situations, c'est une question de ressources financières. Et là, oui, on sent l'alarme et on continue à sonner l'alarme. On essaie de réorienter nos propres assistances dans l'abri, dans l'eau, dans le cash, dans la distribution des non-vivres et les kits hygiéniques pour les femmes, etc. Donc, les différentes choses que nous faisons visent très souvent, sinon toujours, les personnes qui sont le plus à risque pour l'exploitation ou pour des différentes vulnérabilités qui existent. Mais nous partageons aussi des rapports hebdo et mensuels de monitoring et des alertes directes pour partager avec d'autres acteurs nationaux et internationaux qui peuvent aider dans les différents secteurs où nous ne sommes pas experts.
Jackie Kigan, merci.
Merci.
La chef de la sous-délégation du ACR au Nord et Sud Kivu était avec Martial Papimukeba. C'est la fin de ce journal mis en onde par Jean-Noël Mokondo. Retrouvez-le sur www.radiokapi.net. Merci.